Aujourd'hui, on parle de l'hépatite C. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour à vous, fidèles auditeurs. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'hépatite C. Parce que saviez-vous que l'OMS avait pour objectif d'éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique, et ce, d'ici 2030? 2030, là, c'est demain. Eh bien, cet été, j'ai découvert le projet Pharmacée. Ce projet permet aux pharmaciens communautaires de dépister leurs patients à risque et de les référer à leur médecin ou à l'établissement de santé. Ce projet est réalisé grâce à la collaboration de résidents en pharmacie et de pharmaciens en maladies virales chroniques du CHUM. Pour nous en parler et discuter d'hépatite C, je reçois Dominique Martel et Rachel Thérien, qui sont pharmaciens à la clinique des infections virales chroniques du CHUM. Rachel et Dominique participent à l'enseignement aux étudiants dans nos deux facultés de pharmacie québécoises. Ils sont également membres du groupe spécialisé en maladies virales chroniques de l'APES, le GSMVC. Bonjour Dominique.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Rachel.
Bonjour Nathalie.
Vous avez débuté le projet Pharmacée dans un effort de combattre l'hépatite C au Québec, et ce, dans l'objectif d'atteindre l'objectif visé par l'OMS. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que les auditeurs devraient s'intéresser à Pharmacée et au dépistage de l'hépatite C?
Ça vaut la peine de s'y intéresser pour deux raisons. Selon moi, c'est que l'hépatite C peut être prévenue et elle peut être guérie. Okay? À l'heure actuelle, on a des traitements efficaces qui permettent une guérison à 100% ou presque et qui sont très faciles à prendre. Je pense que les pharmaciens sont bien placés pour faire de l'enseignement, entre autres pour les facteurs de risque, pour aller chercher les individus qui s'ignorent actuellement, qui ne savent pas qu'ils sont infectés par l'hépatite C, et leur permettre d'avoir un traitement. Puis on sait que si on traite la personne, bien, on va éviter peut-être d'autres infections. Puis aussi, on peut éviter que cette personne-là développe une cirrhose ou un cancer qui est très délétère pour la personne, mais qui est aussi un lourd fardeau pour le système de santé. La crise des opioïdes puis la COVID nous a probablement fait perdre du terrain pour atteindre les objectifs de l'OMS, et ça vaut la peine de développer des projets novateurs qui vont nous permettre de contribuer collectivement à éliminer l'hépatite C. Les pharmaciens sont super bien positionnés parce qu'ils sont partout à travers la province, peuvent rejoindre plusieurs individus. Puis nous, on est en milieu urbain, puis la spécialisation est en milieu urbain. Donc, d'où un projet comme Pharmacy qui permet de décentraliser le dépistage, puis de permettre de rejoindre des gens que nous, on ne pourrait pas rejoindre là, en milieu urbain. Puis eux, ils ont notre expertise urbaine spécialisée de notre clinique des infections virales chroniques.
Merci, Rachel. Donc, je comprends que c'est une maladie qui peut être prévenue et guérie, puis c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Mais Dominique, peux-tu me dire un peu, c'est quoi la prévalence de l'hépatite C au Québec? Est-ce que c'est fréquent?
Bien, c'est une bonne question, Nathalie. En fait, c'est probablement plus fréquent qu'on pense. Selon différents articles ou revues, on parle d'une prévalence qui pourrait atteindre jusqu'à 1 % de la population qui aurait déjà été infectée par l'hépatite C ou soit activement infectée. Ça peut aller de 0,5 à 1 % là, dépendamment des papiers. Faut savoir que ça va toucher certaines populations de manière disproportionnée, notamment les personnes qui utilisent des drogues injectables. On parle que plus de 60 % de ces gens-là auraient été infectés ou seraient activement infectés par l'hépatite C. Donc, c'est pas loin de 40 000 Québécois. C'est quand même un chiffre là, qui n'est pas négligeable. Puis en 2019, là, les plus récents données, on aurait 1096 cas qui auraient été déclarés notamment.
Donc, peut-être 40 000 Québécois.
Oui.
Rachel, peux-tu me rappeler c'est comment on attrape l'hépatite C? Dominique nous a parlé là, des drogues injectables, mais ce serait quoi les principaux facteurs de risque?
En fait, on attrape l'hépatite C par le sang ou les liquides biologiques qui en sont contaminés. Ça peut se transmettre par les relations sexuelles, bien que ça soit rare. Les personnes les plus à risque de contracter l'hépatite C sont les personnes qui s'injectent des drogues, même les personnes qui se sont injectées une seule fois ou encore qui ont partagé du matériel de consommation. Les personnes qui sont originaires de pays ou encore qui ont reçu des soins de santé dans des pays où la séropathie prévalence est importante. On parle des pays de l'Asie centrale, l'Afrique subsaharienne, l'Europe de l'Est, l'Égypte, la Roumanie, la Syrie, le Pakistan, le Taïwan. C'est des pays où est-ce que la prévalence est en haut de 2 % Pour ce qui est des relations sexuelles, c'est rare chez les hétérosexuels, mais c'est multiplié par 4 pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, surtout ceux qui se qualifient là, pour recevoir la PrEP.
comment je fais pour savoir que je devrais me faire tester? Est-ce que je vais présenter des symptômes ou comment ça se présente?
Bien, c'est pour ça que dépister son facteur de risque, c'est super important parce qu'il y aurait plus là, de 40 %, on parle même de 44 % là, de chiffres qui est avancé des personnes infectées qui ne le savent pas. Donc, il faut savoir que c'est souvent asymptomatique. Si on peut être un peu fatigué ou si on ferait une prise de sang, on pourrait avoir des enzymes hépatiques, les transaminases augmentées. Mais en général, la plupart des gens ne le savent pas. Quand on est infecté par le virus de l'hépatite C, souvent, on va faire une hépatite C aiguë. Puis après 6 mois, si le virus reste présent dans le corps, ça va progresser vers une hépatite C chronique. Puis ça va arriver dans 80 % des cas. Donc, il y a à peu près seulement 20 % des individus qui sont capables de se débarrasser par eux-mêmes du virus. Donc, la plupart des gens infectés vont développer une hépatite C chronique et finalement n'auront pas vraiment de symptômes pour plusieurs années, sauf s'ils progressent bien sûr vers une cirrhose ou ils vont avoir des signes et symptômes d'une cirrhose quand elle va être décompensée à ce moment-là.
Puis c'est quoi les conséquences d'être porteur de l'hépatite C là, de façon asymptomatique?
C'est sûr qu'à court terme, il y a peu de conséquences, mais sur une période, par exemple, de 20 ans, il y a à peu près 20 à 30 des gens qui vont progresser vers la cirrhose. Une fois qu'on a atteint le stade de patient cirrhotique, on a des risques de décompensation, donc de faire de l'acide, l'encéphalopathie hépatique, par exemple, qui vont être jusqu'à 4 % par année. Puis également, 4 % des gens cirrhotiques en lien avec l'hépatite C qui vont également développer un carcinome hépatocellulaire. Donc, on sait avec toutes les conséquences que ça peut avoir vers le système de santé. Puis c'est des gens qui vont éventuellement avoir besoin d'une transplantation hépatique. Donc, on sait que les organes ne courent pas les rues. Donc, c'est quand même des conséquences très fâcheuses. Historiquement, les hépatites virales étaient la cause principale ou une des causes principales de transplantation hépatique. Dans les dernières années, on a vu une diminution qui est quand même encourageante, notamment en raison des traitements, d'où l'intérêt là, de dépister l'hépatite C pour rattraper ces gens-là avant qu'ils aient des conséquences là, qui sont très lourdes sur le système de santé. Et également, le problème au niveau de la santé publique, bien, si on a l'hépatite C puis on ne sait pas qu'on a l'hépatite C puis qu'on a des comportements à risque, bien, on va le transmettre à d'autres personnes. Donc, les risques de transmission sont quand même très élevés là, pour l'hépatite C, là, plus que d'autres virus comme le VIH notamment. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire dépister quand on a des facteurs de risque.
Donc, je comprends que c'est une petite bombe à retardement là, pour l'individu puis peut-être pour la société autour de cet individu-là. Mais Rachel, dis-moi, chez qui devrait-on dépister l'hépatite C? Là? Est-ce qu'on va dépister tous les patients qui arrivent de pays à risque? Puis j'aimerais aussi savoir en quoi le projet Pharmacie est innovant pour le Québec.
Bien, c'est innovant dans le sens que nous, ce qu'on voulait voir, c'est si les pharmaciens étaient en mesure de dépister dans leur pharmacie avec un test qui est de détection d'anticorps avec une goutte au bout du doigt. C'est bien tombé parce que les pharmaciens s'étaient familiarisés avec le test COVID, donc on avait un bon timing à ce niveau-là. Oui, ça vaut la peine de dépister beaucoup de monde qui ont les facteurs de risque, puis de les rejoindre où ils sont, parce que souvent, ils n'ont pas de médecin, ils n'ont pas accès au système de santé facilement. Nous, on ne les rejoint pas d'où nous sommes, d'où l'intérêt de décentraliser le dépistage, puis d'aller là où les individus sont. Les facteurs de risque, on les connaît. Avec notre projet, on avait fait des brochures, des pamphlets, puis les patients pouvaient se reconnaître, de se dire, oh oui, je me suis déjà injecté des drogues dans le passé, oui, j'ai reçu des soins de santé dans tel pays. Oh my God, je viens de tel pays, mais je n'étais pas au courant que mon pays à moi avait de l'incidence importante au niveau de l'hépatite C. Donc, c'est innovant parce que les pharmaciens ne font pas beaucoup de dépistage, puis c'est innovant parce qu'on décentralise des soins qui sont très spécialisés, puis qu'on fait surtout dans des cliniques comme nous qui sont ultra spécialisées.
Mais quel était l'objectif principal du projet?
Mais l'objectif principal, c'est exactement ça, c'est de voir si on était capable d'implanter un programme de dépistage en pharmacie communautaire. On a pris un devis de transfert de connaissances. Donc, nous, on a transféré nos connaissances, mais aussi, on partageait nos connaissances avec les pharmaciens de quartier, puis on s'ajustait en cours de route. Donc, on avait deux populations. On avait les pharmaciens qu'on recrutait, puis les pharmaciens recrutaient des usagers. Donc, on avait plein d'objectifs secondaires qui étaient, entre autres, de décrire les pharmaciens qui ont voulu participer à notre projet, de voir leur satisfaction, de décrire notre population qui sont venus faire un dépistage, les facteurs de risque pour l'acquisition de l'hépatite C, la satisfaction des usagers. Donc, c'était ça, entre autres, nos objectifs.
Beau projet. Dominique, je te ramène un peu sur la clinique. Ça serait quoi les tests à réaliser pour dépister l'hépatite C? Parce que là, Rachel m'amène sur une goutte de sang sur le bout du doigt. Ça me semble pas mal simple. Est-ce que c'est le cas?
Mais en fait, ce test-là, ce n'est pas le test standard, d'où l'innovation également du projet. Donc, normalement, le dépistage d'hépatite C, ça se fait en deux temps. C'est une prise de sang classique, là, traditionnelle. Puis le premier test qu'on va faire, c'est qu'on va détecter les anticorps, donc une sérologie anti-VHC. Ça, en général, quelqu'un qui est infecté, il y a une période fenêtre qui peut aller jusqu'à 12 semaines suite à l'exposition. Habituellement, ça va devenir positif en 6 à 8 semaines. Les patients immunosupprimés, comme par exemple un patient infecté par le VIH avancé, un patient qui est greffé d'organes, par exemple, le test pourrait prendre beaucoup plus de temps que le 12 semaines avant de devenir positif. Mais pour la plupart des patients, la période fenêtre est de 12 semaines. Quand ce test-là est positif, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a l'hépatite C actuellement. Ça veut juste dire, en fait, qu'on a vu le virus, puis ce test-là va être positif à vie. Donc, si on a guéri par soi-même l'hépatite C, on a eu un traitement, il va toujours rester positif. Donc, ce test-là, on va le faire une fois, puis c'est bon pour vraiment dépister les gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont jamais de dépistage. On le fait une fois. Ensuite, chez les patients qui sont négatifs, on sait qu'ils n'ont pas l'hépatite C, donc ça, c'est rassurant. Si ce test-là est positif, on doit confirmer la présence du virus, puis ça, c'est fait par un test, on va mesurer là, le matériel génétique de l'hépatite C. Donc, c'est un test qui s'appelle l'ARN de l'hépatite C pour confirmer l'infection active. Ce qui est bien intéressant à retenir là, pour nos auditeurs, c'est qu'une fois qu'un patient est connu anti-VHC positif, donc la sérologie positive, ce test-là est positif à vie. Donc là, à ce moment-là, si ce patient-là, par exemple, a été guéri, il y a toujours des facteurs de risque et qu'on doit le redépister, on doit faire un ARN de l'hépatite C pour confirmer. Donc, ce test-là, l'anticorps une fois dans la vie, puis après, une fois qu'il est positif, après, ça va toujours être l'ARN qu'on va faire.
OK, mais alors, cadre-moi ça dans le cadre du projet pharmacie. Qu'est-ce que le pharmacien communautaire devait faire comme test? Le premier?
Exactement. Donc, on appelle ça un test au point de service, donc qui était fait vraiment à la pharmacie directement. Puis, dans le cadre du dépistage, c'est pas du diagnostic. Donc, nous, c'était vraiment, on mesurait la sérologie, les anti-VHC, mais c'était pas fait par une prise de sang traditionnelle. Comme Rachel l'a dit, c'était un test par ponction capillaire du bout du sang, donc un test antigénique rapide, donc on mesurait les anti-VHC qui s'appelait ORAQUIC, qui est un test qui est homologué par Santé Canada. Les résultats positifs vont s'obtenir en général autour de 20 à 40 minutes. Puis quand c'est positif, en général, le test sort positif même souvent à l'intérieur là, d'un délai un peu moins que 20 minutes. Puis le rôle du pharmacien, vraiment, c'était d'identifier les patients qui étaient à risque, l'hépatite C ou des patients qui pouvaient se présenter à la pharmacie, d'avoir un counseling pré-test pour discuter là, l'hépatite C, des facteurs de risque et des impacts d'un résultat positif. Un proposait le dépistage à leurs patients. Il y avait une grosse partie là, qui était un peu administrative qui devait malheureusement, mais de façon obligatoire, remplir tous les documents de recherche qui étaient quand même très longs. Donc, dans un contexte de vie réelle, probablement, cette partie-là va sauter au grand plaisir de nos pharmaciens communautaires. Ensuite, devait faire les transferts à l'équipe de recherche, notamment pour la prise en charge s'il y avait un test positif et de discussion. Donc, le gros du travail, c'était vraiment là, d'identifier les patients puis de discuter puis de faire le counseling pré- et post-test. Là.
Donc, le but du projet, c'était de détecter de nouveaux patients afin de pouvoir les traiter. Est-ce que vous avez atteint votre objectif principal, Rachel?
Bien, on a vraiment atteint nos objectifs. On est content de notre projet. Il faut se rappeler que c'est un projet étudiant avec une période de recrutement d'à peu près 6 mois. Puis, on a fait énormément de formations, développé des brochures, développé des affiches pour le recrutement. Puis, oui, on est content, on a recruté un bon nombre de pharmaciens qui ont participé à notre projet, puis eux ont recruté aussi plusieurs usagers. Et en prime, oui, on a dépisté quelques patients qui avaient l'hépatite C, puis qu'on n'aurait probablement pas rejoint dans notre mode de fonctionnement habituel là, dans la clinique. C'est des patients qui n'avaient pas nécessairement de médecin de famille ou qui avaient un médecin, mais qui peut-être ignoraient un peu le traitement de l'hépatite C, n'étaient pas au courant. Donc, on est très satisfaits de nos résultats.
Mais c'est encourageant. On voit ici un rôle potentiel pour le pharmacien. Là. Dominique, mettons que je suis un pharmacien communautaire qui a accepté de participer à cette étude-là, puis là, mon test est positif. Là. C'était quoi la suite de la prise en charge pour le patient?
Mais c'est sûr que les pharmaciens avaient été bien formés et préparés pour pas que ce soit une surprise ou une panique là, à l'arrivée d'un résultat positif. Là. Dans le contexte du projet, le pharmacien demandait l'autorisation au patient pour communiquer avec son médecin de famille si jamais il y en avait un. S'il n'y avait pas de médecin ou le médecin de famille n'était pas du tout à l'aise de traiter avec l'hépatite C, ce qui était un peu une hypothèse qu'on pouvait avoir sur certains patients. Là, on sait que c'est un des problèmes dans la prise en charge de l'hépatite C, qu'il y a beaucoup de cliniciens qui connaissent le problème et qui n'en font pas nécessairement. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit pris en première ligne. Si vraiment le médecin du patient n'était pas à l'aise, le pharmacien pouvait référer là, directement son patient à la clinique des infections virales chroniques ou pouvait être pris en charge par l'équipe de pharmaciens-chercheurs à l'aide là, de l'équipe multidisciplinaire médecins, pharmaciens-infirmières de notre clinique. Puis, dans certains contextes, donc on avait par exemple une pharmacie partenaire à Gatineau, c'était un peu pas réalisable là, de faire venir le patient à Montréal et autres. Eux, ils avaient établi un corridor de service avec des partenaires médecins là, qui traitaient l'hépatite C de façon le plus locale.
Mais Rachel, je comprends bien le rôle du pharmacien communautaire, là, mais je comprends aussi que c'est un projet de résident en pharmacie d'hôpital, en pharmacothérapie avancée. Donc, c'est quoi le rôle du pharmacien d'établissement là, au-delà d'être le chercheur du projet?
Bien, si on met un petit peu de côté la recherche, là, parce qu'il y avait comme un chapeau recherche qui est assez important, mais notre rôle, ça a été beaucoup, un, de s'assurer que les gens connaissent ce test-là, qu'on les distribue, puis on assure la qualité aussi, là, une fois distribué. On faisait des tests de contrôle de qualité. On a répondu aux questions des pharmaciens, autant pour l'hépatite C ou leur insécurité aussi, à questionner les patients, parce que c'est quand même pas simple. Là. Ça peut être un peu stigmatisant, donc ne créer des formations sur la réduction des méfaits, un hépatite C 101, on les a rendus à l'aise. On a apporté les correctifs aussi quand ils nous disaient qu'il y avait des barrières, on a essayé de trouver des facilitateurs. On a servi de pont, comme un peu Dominique a dit. Eux, ils étaient pris avec une information, puis ils avaient besoin de nous. On pouvait amener notre expertise à eux, mais aussi amener le patient à notre clinique si jamais il était médecin orphelin. Donc, le pharmacien a joué quand même un rôle encore plus important que je pensais parce qu'il faisait le lien avec le médecin qui allait traiter, il a fait l'évaluation, il a écrit la première note. Donc, on était vraiment une porte d'entrée, là, puis un bon lien là, entre la communauté et le milieu hospitalier.
Donc, je peux comprendre que le pharmacien d'établissement vraiment mettait son expertise au service de ses collègues en pharmacie communautaire puis peut-être même en médecine.
En médecine, ben on n'avait pas un lien avec le médecin. Notre médecin, c'était le médecin qui était dans notre unité, qui était déjà spécialité. Mais de mettre au service notre expertise, il y en a qui n'étaient pas tout à fait au courant qu'il existait un traitement curatif pour l'hépatite C, aussi court, aussi facile. Fait que nous, on transmettait cette nouveauté-là. Puis les guidelines québécois font en sorte que c'est tellement simplifié à l'heure actuelle qu'un pharmacien peut traiter facilement un individu qui n'a jamais eu de traitement avant, qui n'a pas de cirrhose, avec très peu d'informations. Oui, on était au service de ces pharmaciens-là, puis on leur offrait notre temps, ce qu'on fait déjà dans d'autres expertises, là, que ce soit le VIH ou quoi que ce soit.
Mais Rachel, tu nous amènes un peu justement sur les traitements. Fait que Dominique, j'aimerais ça que tu me fasses une revue là, rapide là, de la pharmacothérapie des médicaments antiviraux pour traiter l'hépatite.
Bien, comme l'a dit Rachel, c'est vraiment, on y va vraiment vers la simplicité. Donc, pour essayer de garder ça simple, je vais éviter de nommer des molécules. Donc, on utilise des antiviraux à action directe. Ce sont des régimes pangénotypiques qui vont vraiment couvrir tous les régimes là, contre l'hépatite C. Actuellement, il y a deux molécules principales qui contiennent là, chacun des bithérapies qui vont avoir des antiviraux qui vont cibler différentes protéines, cibles virales. Ces médicaments-là sont très, très faciles à prendre. On parle d'un traitement qui va être soit de 8 ou 12 semaines où on va obtenir là, un taux d'efficacité supérieur à 95 %, donc efficacité pour vraiment guérir l'infection virale. J'invite les auditeurs à consulter les lignes directrice québécoise qu'on va vous donner en lien. Donc, la prise en charge et le traitement des personnes infectées par le virus de l'hépatite C, le guide à l'intention des professionnels de la santé du Québec, où vraiment, là, on explique de long en large comment bien traiter quelqu'un pour l'hépatite C.
95 % d'efficacité, c'est quand même intéressant. Ça vaut la peine de dépister?
Oui, il y a un peu quand même d'infections là, où on peut parler d'un taux d'efficacité aussi élevé. Là.
Et Rachel, est-ce qu'il y a des interactions qu'on devrait considérer dans ce traitement-là, par contre?
Effectivement, il y a un petit peu d'interaction parce que les deux molécules les plus populaires, ils peuvent inhiber des transporteurs. Fait qu'on sait que les transporteurs vont chercher les interactions avec les statines, avec certains médicaments. On dit qu'à peu près 20 % des individus, 1 sur 5 va peut-être avoir une interaction. C'est bon de faire une analyse en début avant de traiter, puis peut-être en cours de traitement si jamais il s'ajoute des médicaments. Il faut se rappeler que c'est un traitement qui est très court, hein? C'est 8 à 12 semaines. Puis règle générale, on peut soit cesser le médicament. On a des directives, c'est des interactions qui sont quand même facilement gérables. Il existe 3 sites spécialisés, bien que les monographies soient assez complètes, je dirais, pour des molécules qui sont assez récentes, mais il existe des sites spécialisés. Il y a guidethérapeutiquevih.com, il y a un site de Toronto qui est hivclinique.ca et le site de Liverpool qui est ep-druginteraction.org.
Alors là, si vous êtes dans l'auto et que vous n'avez pas de crayon, je vous garantis qu'on va le mettre en lien avec les informations du balado. Dominique, y a-t-il un suivi particulier à faire?
Bien, en fait, il y a quelques labos qui sont nécessaires. C'est très bien expliqué dans le guide. Souvent, ça va être des laboratoires qui vont être faits pré-traitement pour notamment évaluer la fibrose hépatique, voir si notre patient cirrhose ou pas. Bilan de base qui contient notamment formule sanguine, créatinine et d'autres laboratoires. On va s'assurer d'éliminer une co-infection par le VIH, par l'hépatite B notamment. En cours de traitement, maintenant, chez un patient non cirrhotique, dans les cas de traitement simplifié, il n'y a plus de labos qui sont nécessaires. Ça peut être optionnel selon certaines situation clinique particulière, mais pour la plupart des patients, pas vraiment de labo. Donc, ce qui est important, c'est un suivi de l'adhésion, donc d'encourager notre patient, puis les pharmaciens sont probablement les meilleurs professionnels de la santé pour faire ça. Les effets indésirables, il y en a très, très peu, là, donc pour un suivi téléphonique ou renouvellement, c'est souvent adéquat. 12 semaines après la fin du traitement, c'est là qu'on va faire notre fameuse prise de sang pour savoir si notre patient est guéri, donc l'ARN de l'hépatite C, 12 semaines après la fin du traitement, puis on va également mesurer le taux d'ALT pour s'assurer que si c'était un peu élevé, que c'était vraiment relié à l'hépatite C, pas à d'autres conditions de santé. Puis les labos aussi, c'est important à savoir, c'est pas nécessairement le pharmacien qui a à gérer ça, c'est souvent tout pris en charge au besoin par l'équipe médicale et les équipes traitantes.
Merci Dominique, tu me rassures, ça semble quand même un traitement assez bien toléré puis efficace, on l'a dit tout à l'heure. Je comprends que tous les pharmaciens ont un rôle à jouer dans ce fameux dépistage-là, là. On les a entendus, les facteurs de risque, là. C'est pas uniquement dans la communauté.
Je pense que c'est tout le monde, puis ça s'applique à l'hépatite C parce qu'on en parle aujourd'hui, mais je pense que n'importe quelle maladie chronique, on peut faire plus que des fois juste « Ah, j'ai un patient qui a tel problème actuellement, il faut essayer de voir les patients dans leur globalité ».
Mais ce serait quoi vos grandes leçons, là? Qu'est-ce que vous avez appris de ce projet-là? Puis commençons par Rachel.
Moi, j'ai appris beaucoup. En fait, c'est mon deuxième projet avec des pharmaciens communautaires, là. J'ai confirmé à quel point ils étaient proches de leur communauté, comme ils étaient excessivement impliqués. Mais là, ce qui était de plus, c'est avec les nouvelles lois, COVID, ils ont acquis encore plus de possibilités. Puis, ils ont énormément d'initiatives et qui nous ont amené des fois des façons de faire que j'aurais pas pensé, là, qui se seraient développées en cours de projet. Je pense clairement que les pharmaciens communautaires seraient des acteurs importants dans le dépistage de l'hépatite C. Ils rejoignent des populations qu'on n'est pas capable de rejoindre en milieu hospitalier.
T'sais, moi, j'ai aussi appris que ça permet vraiment aux patients, les patients qui ont eu des tests de dépistage, là, c'est des patients qui... certains ne connaissaient pas l'hépatite C, d'autres oui, mais qui n'avaient jamais eu l'occasion d'avoir accès à des tests de dépistage. Donc, c'est d'avoir des tests au point de service. Puis nous, on le fait en pharmacie, mais ça peut se faire dans des organismes communautaires ou ailleurs. Puis également, on s'est rendu compte que les pharmaciens communautaires étaient très occupés. Donc, on a été très contents qu'ils participent à ce projet-là, mais quand même, on leur a mis indirectement une certaine pression parce qu'ils ont vraiment... Tu sais, les nouvelles activités, c'est très, très bien pour la population québécoise, mais les pharmaciens communautaires, là, ce sont des gens qui travaillent très fort.
Mais je comprends quand même qu'on pourrait aller vers des projets de collaboration entre pharmaciens d'établissement et pharmaciens communautaires, particulièrement dans des cas de dépistage.
Pour moi, clairement, j'irai vers une formule encore améliorée là, de ce projet-là, dans le sens que dans des pathologies comme ça, avec des populations marginalisées, c'est qu'il faut essayer de raccourcir la période entre le diagnostic et le traitement. Là, à l'heure actuelle, on fait un dépistage d'anticorps. Il faudrait que le pharmacien ait le droit de prescrire l'ARN ou encore qu'on fasse un test d'ARN parce que ça existe. Donc, on pourrait raccourcir tout ça et que le pharmacien puisse, en lien avec nous, spécialiser ou éventuellement avec d'autres organismes, qu'il ait la chance d'avoir des algorithmes de traitement et de traiter. Là,
Mais d'ailleurs, ma question, c'est est-ce que le projet pharmacie devrait être déployé à plus grande échelle? Est-ce que vous verriez ça à la grandeur du Québec?
Moi, oui.
Bien, je pense que je suis d'accord aussi. Puis c'est sûr que, comme Rachel l'a dit, on aurait quand même besoin d'avoir un petit élargissement des activités permises par les pharmaciens, notamment l'accès au dépistage par l'ARN d'hépatite C. Puis après ça, ça va vraiment passer. Puis ça va être intéressant de voir peut-être des initiatives locales entre des partenariats, peut-être entre des pharmaciens plus spécialisés à l'hôpital et des pharmaciens de première ligne aussi, que ce soit en communautaire ou GMF aussi, dans le futur.
Bon, mais j'espère qu'on a des décideurs qui écoutent ce balado, là. J'apprécierais qu'on puisse étendre ce projet. Rachel, ce serait quoi pour toi le message clé à retenir de cet épisode?
Mais je reprendrai le slogan de notre étude, là, qui était « L'hépatite C peut être traitée, le dépistage est la clé ». Donc, on le sait, on a un traitement qui est efficace, facile à prendre, puis que les pharmaciens peuvent être des acteurs importants là, pour contribuer à diminuer le fardeau de l'hépatite C, puis qu'il faut décentraliser le dépistage si on veut finir par atteindre les objectifs.
Dominique, as-tu quelque chose à rajouter
à cela?
C'est
très bien dit. Peut-être juste rajouter que nous, on a fait ce projet-là en lien avec l'hépatite C parce qu'on avait cet intérêt puis cette expertise-là, mais il n'y a rien qui exclut de faire d'autres types de projets ou d'activités en lien avec d'autres infections, d'autres maladies, comme par exemple le VIH, les ITSS. On a longtemps vu le pharmacien comme étant un acteur clé du traitement dans sa grande accessibilité, mais ça pourrait également être un pro pour essayer de prévenir des problèmes de santé, d'identifier les patients cibles pour offrir des traitements précoces et contribuer aux efforts de santé publique également.
Merci Dominique Martel et merci Rachel Thérien d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Merci à vous, ça nous a fait plaisir d'être ici.
Oui, merci beaucoup Nathalie de nous avoir invités, c'est toujours agréable.
Je suis certaine que nos auditeurs maintenant auront le réflexe de considérer le dépistage de l'hépatite C pour leurs clients à risque là, dans le futur. Et à vous, chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre épisode. Mais je vous donne rendez-vous le mois prochain pour discuter de la maladie de Parkinson avec James Hill. À très bientôt!
Les renseignements contenus dans la balado-diffusion Très pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel.